Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant.
Vous ne me prenez pas au sérieux.
Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre.
Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville, première chaîne consacrée à la jeune création théâtrale en France. Après notre épisode pilote consacré à Pauline Riba, auteur et metteur en scène de Depuis l'aube de Clitoris, je retrouve aujourd'hui Samuel Valency, auteur et metteur en scène de L'inversion de la courbe, en ce moment au Théâtre de Belleville. On parle de son parcours atypique, de son spectacle, de ses créations, et on tente de donner un bout de réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est en fait faire du théâtre ?
Est-ce que tu peux me parler de ton parcours pour commencer, te présenter en quelques mots ?
On va dire que j'ai pas le parcours classique du metteur en scène parce que j'ai pas fait d'études théâtrales à proprement parler. En fait, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC et pendant mes études, j'ai eu une découverte avec le théâtre. Je faisais de la musique depuis très longtemps et en première année d'école, je suis rentré directement dans la comédie musicale de l'école et ça a été ma première découverte avec le théâtre. Et en fait, à la fin de la première année d'HEC, j'ai été nommé président de cette comédie musicale, donc ça impliquait l'écriture et la mise en scène. C'est la première fois que j'ai fait de la mise en scène de ma vie. Et puis en fait, j'ai adoré la partie théâtre, j'ai eu envie d'en faire plus. Et comme quelqu'un qui ne sait pas comment faire, je suis allé m'inscrire sur casting.fr. J'ai payé 13€ par mois et j'ai passé deux auditions. Une pour une pièce qui s'appelle L'Envol 1946 et une autre pour rentrer dans une compagnie qui s'appelle La Compagnie en eau trouble. Et dans laquelle j'ai été compositeur et comédien sur plusieurs spectacles et jusqu'à devenir finalement producteur d'un des spectacles de la compagnie Merlin, parce que cette compagnie est devenue résidente au Théâtre du Soleil. Donc voilà un petit peu pour comment je suis rentré dedans, on va dire.
T'es entré dans le théâtre via HEC en fait.
Je suis rentré dans le théâtre via HEC et aussi parce que en fait en fin de deuxième année d'HEC, il faut faire un choix de stage et j'ai eu beaucoup de mal à en faire un. Il s'avère que assez miraculeusement mon père soigne les chats parce qu'il est vétérinaire de Philippe Tesson et Philippe Tesson venait de racheter le théâtre de poche et tout ça s'est présenté à peu près au même moment, donc j'ai rencontré Philippe Tesson grâce à ses chats et ses chats m'ont introduit au théâtre de poche. J'ai fait un stage voilà, et j'ai travaillé un an à peu près en tant qu'assistant de production au théâtre de poche où j'assistais donc Philippe Tesson et Charlotte Rondelet et Stéphanie Tesson à la direction.
Et après ça, t'es entré dans la compagnie La Poursuite du Bleu.
En fait, dès que j'ai terminé ce stage, j'ai fait ma dernière année d'HEC et puis en parallèle, j'ai créé ma propre compagnie La Poursuite du Bleu. Au début, qui devait être une structure de production de plusieurs projets et qui finalement cette année est devenue ma compagnie en fait. Je suis président, auteur et metteur en scène et un peu compositeur sur les bords, mais plus beaucoup.
Oui, j'ai vu que tu étais à la fois acteur, auteur, metteur en scène, musicien, compositeur, co-metteur.
Il y a des choses qui sont assez accidentelles. J'ai toujours fait de la musique. Après, je pense que la partie jeu, ça m'a beaucoup appris pour l'écriture et la mise en scène. Maintenant, mon objectif, c'est vraiment l'écriture et la mise en scène. C'est pas de jouer, c'est pas de continuer à jouer en tout cas.
Et la musique, tu continues ?
La musique, je continue, mais en fait, 90% du temps, quand je prends la guitare, c'est pour composer pour le théâtre. Donc, c'est toujours dans le cadre théâtral, en fait.
J'ai lu dans un article d'HEC que tu as été qualifié d'entrepreneur de la culture. Est-ce que c'est une expression dans laquelle tu te retrouves ?
Ouais, je pense que tout metteur en scène est un peu entrepreneur parce que c'est beaucoup de responsabilités. C'est assurer un discours clair vis-à-vis de son équipe, savoir où on va, savoir tracer à la fois une ligne artistique et puis des ambitions en termes de tenue d'un certain projet. Enfin, c'est très très proche de l'entrepreneuriat. Après, quand HEC a écrit cet article, je menais de front l'écriture d'un projet, le festival Haut en couleur à HEC et puis en parallèle la production de Merlin au Théâtre du Soleil. Donc à ce moment-là, j'étais plus entrepreneur qu'aujourd'hui au sens strict, on va dire.
Et c'est important pour toi de garder ce lien avec HEC, notamment via le festival
Alors le festival s'est arrêté parce qu'il était économiquement pas tenable. Et en fait, la condition pour le faire perdurer, c'était de le faire sponsoriser par des entreprises pour offrir des places gratuites aux étudiants. Au même moment, moi, je me bagarrais pour qu'on garde des places pour les petits frères des pauvres qu'on accueillait pendant la production de Merlin, pendant l'exploitation de Merlin. Et je trouvais que ça n'avait pas de sens, d'un côté, de donner des places gratuites à des associations, et de l'autre, de trouver des moyens pour faire venir des gens qui viennent plutôt de milieux favorisés au théâtre. J'ai trouvé que ça n'avait pas de sens et j'ai voulu arrêter. Cela dit, ça a été une expérience très enrichissante et j'ai toujours des liens très forts avec l'école et avec son administration. Ils me soutiennent beaucoup dans les projets, ils relaient les projets. Donc,
Du coup, aujourd'hui, en parallèle de ton métier de metteur en scène et d'auteur, tu travailles aussi dans une entreprise ?
Oui, arrivé à la fin de la production de Merlin, j'étais dans des paramètres financiers qui étaient assez difficiles à tenir, pour être honnête. Et donc, très sincèrement, j'ai pensé que j'allais abandonner le théâtre et que je ne produirais ou n'écrirais plus. Et j'ai donc décidé de m'orienter toujours dans la création, mais plutôt en start-up. Et là, je m'occupe de diriger une équipe de designers dans une start-up qui s'appelle Pitchy. Et c'est un boulot assez génial. Mais au bout de 3 mois passés à ne faire que ça, très vite, c'est revenu. Et puis, je me suis remis à l'écriture. Je pensais pas que j'arriverais à tout mener de front, mais j'ai eu des boss qui ont été très compréhensifs et voilà. Et puis, comme je pense que ça peut beaucoup se voir dans la version de la courbe, le fait d'être travaillé en entreprise m'apporte énormément aussi.
Tu peux nous parler de Merlin, qui est un projet très ambitieux.
Merlin, c'est une aventure humaine parce que c'est la compagnie En eau trouble, c'est la première compagnie dont j'ai été membre, qui est portée par Paul Balaguer, le metteur en scène. Et il a eu un projet absolument fou qui était de faire une création de 9 heures de spectacle sur la légende arthurienne, un texte de Tancrède d'Horst. Et c'est un texte qui est magnifique, qui est très ambitieux, mais qui demande une ambition absolument démesurée au plateau. C'est-à-dire qu'on était à peu près 25 en tout à travailler sur ce projet entre la technique, la production, la communication, la réception du public, parce que recevoir le public sur 9h, ça demande des organisations, un bar, une billetterie, etc., qui n'ont rien à voir avec une organisation classique. Et en plus, il y avait 12 comédiens au plateau, donc c'était un projet assez énorme. Moi, ce qui m'a poussé, c'était vraiment l'aventure humaine. Je savais que ce serait un projet très difficile à tenir, et ça l'a été, mais ça a été très enrichissant. Et c'est devenu un petit peu, quand on se présente dans les différents théâtres où on travaille aujourd'hui, c'est devenu un petit peu notre carte de visite d'avoir fait ce projet démesuré qui nous a quand même pris 2 ans à voir le jour, en fait.
Vous avez joué pendant combien de temps ?
Le projet s'est joué 25 fois avec une configuration particulière, c'est que comme il durait 9 heures avec les entractes, on ne pouvait pas le jouer n'importe comment. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un épisode de 4 heures chaque soir. Et les gens se présentaient soit en semaine à l'un des épisodes, soit ils venaient carrément le week-end assister à la totalité du spectacle. Donc voilà, c'était un format un peu particulier. Ça s'est joué 25 fois en tout, mais si on compte que des intégralités, je pense que ça s'est joué une quinzaine de fois.
Donc des comédiens qui restent 8 heures au plateau.
Exactement, ouais, des comédiens qui restent 8 heures au plateau. Et il faut se mettre à la place du comédien qui arrive à la fin de l'exploitation, qui est malade, qui est fatigué et qui sait qu'il doit encore tenir 8 heures. Enfin, c'était absolument, ça a été très formateur pour nous tous. C'est-à-dire que je pense aussi que c'est, en termes de production, ça doit être l'une des premières productions de compagnie parmi les plus chères de l'histoire, parce que en fait, personne commence avec ça. On a pris un risque assez fou et on a réussi quand même à avoir un projet qui a vécu et qui a été équilibré et qui en plus a fait parler de nos ambitions artistiques. Donc ça, c'était fort. Après Merlin, j'ai réuni une équipe qui était déjà constituée, qui était faite d'ailleurs de nombreux comédiens de Merlin, autour d'un projet qui était une adaptation des Cerfs Volants de Romain Gary. Et c'est d'ailleurs cette adaptation que je préparais dans mes tiroirs depuis 3 ans qui a donné mon nom, le nom de ma compagnie, La Poursuite du Bleu. Et on a fait 2 lectures qui se sont bien passées, mais où je me suis dit que c'est plus ce que j'avais envie de faire. Ça faisait 3 ans que j'attendais ce projet. Merlin venait de se terminer. J'avais plus envie de raconter juste des jolies histoires. Et j'avais envie de mener des projets qui parlent d'aujourd'hui. Ça faisait quelques temps que j'avais l'impression que j'avais du mal à me réconcilier, entre guillemets, c'est-à-dire à accepter le fait que j'ai fait HEC dans mes projets théâtre. à pas juste être le pote théâtreux qui a fait HEC ou à être le pote d'HEC qui fait du théâtre, mais à accepter vraiment la richesse des deux points de vue et de mélanger ça au plateau. Et en fait, à un moment où je savais pas trop sur quoi me projeter, on a eu une rencontre avec l'association des Petits Frères des Pauvres, parce qu'on donnait des places à cette association pendant Merlin. Et Paul-Éloi Forget, qui était un des rôles importants dans Merlin, et qui est le rôle principal de l'inversion, m'a accompagné à une rencontre avec les Petits Frères des Pauvres, et on a rencontré des gens qui avaient des profils absolument hallucinants, anciens chefs d'entreprise, anciens profs, anciennes assistantes sociales, anciens restaurateurs, enfin, il y avait énormément de profils, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était vraiment une espèce de grand nettoyage des clichés qu'on peut avoir sur les gens qui se sont retrouvés à la rue ou dans des situations de précarité extrême. On en a beaucoup parlé avec Paul-Éloi, et pour en parler beaucoup avec les bénévoles, on s'est rendu compte que tous les gens qui avaient vécu ces situations-là n'en parlaient pas à leurs proches. Alors que nous, spontanément, on se dit, bah, si demain il m'arrive un souci, ce sera nécessairement mes proches qui m'aideront. Mais en fait, ces gens-là n'en ont pas parlé. Et rapidement, j'ai commencé à travailler sur le thème de la productivité dans le quotidien en me rendant compte que c'est juste pas possible de partager le fait qu'on est improductif. Parce qu'on nous le demande partout, des réseaux sociaux au sport, en passant par le travail. On nous demande de faire plus. Et on nous donne pas d'ailleurs juste qui aime nos photos, on nous donne le décompte du nombre de personnes qui aiment. Et ça en dit beaucoup sur le fait que c'est très dur de plus être dans la course, en fait.
Comment est-ce que ça s'est passé, ces rencontres avec les Petits Frères des Pauvres?
Au début, c'était une rencontre vraiment de discussion, d'échange autour de Merlin. C'était vraiment l'enjeu. Et les gens qui avaient vu la pièce l'avaient beaucoup aimé. On a beaucoup échangé sur comment un tel projet se montait. Et en fait, moi, je suis resté en contact avec les personnes accompagnées et avec les bénévoles qui nous ont accueillis. Et j'ai dit, voilà, je crois que j'aimerais parler de ces parcours, des gens qui ont vécu ça. J'ai eu une approche très directe, c'est-à-dire en abordant directement la communication des Petits Frères des Pauvres et en disant, j'ai envie de parler de ça, de parler de la productivité aujourd'hui, de parler de comment on se retrouve dans la précarité, de comprendre et de faire comprendre aux autres comment un tel parcours arrive. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'accompagner ? Et l'une des bénévoles, Claude Guillard, a dit, c'est la fameuse Claude Guillard que tout le monde connaît dans les théâtres parisiens, a dit, allons-y, lançons des ateliers. Et très rapidement, j'ai eu les mains libres pour organiser des ateliers, sans cacher du tout le but de ces ateliers. D'abord juste des ateliers d'écriture et d'improvisation théâtrale. Et petit à petit, on en est venu à des scènes que j'avais écrites et à des enrichissements en improvisation. Et c'est ça qui a donné le premier matériau de l'inversion de la courbe.
Donc les témoignages que tu as recueillis, les vrais témoignages aussi.
Exactement, en fait, il y a eu en parallèle à la fois des improvisations sur les textes écrits et en même temps des récoltes de témoignages. Et on enrichissait en permanence le texte des récoltes de témoignages. Et en même temps, pour les comédiens, il y avait un échange au plateau parce que les comédiens professionnels du projet et les personnes qui avaient vécu la précarité, qui étaient accompagnées, étaient ensemble en improvisation. Donc du coup, c'était une richesse pour l'un comme pour l'autre qui était très 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 forte.
Ce témoignage, tu en as fait une œuvre de fiction, alors que c'est une démarche qui pourrait s'apparenter à du théâtre documentaire.
L'idée, c'est que la précarité, ça peut toucher absolument n'importe qui. Donc on voulait pouvoir en parler au plus grand nombre. On savait qu'en faisant du théâtre documentaire, on risquait de tomber dans un format qui était beaucoup moins accrocheur, beaucoup moins percutant. Et du coup, on a décidé d'en faire une fiction qui mélangeait un petit peu tous les témoignages qu'on a recueillis. Et il y a énormément de situations, du fichage Banque de France jusqu'à la blessure au sport qui devient un moment de panique parce qu'en fait, on se dit « Oh mon Dieu, je commence à ne plus être productif », qu'on a gardé et qui sont vraiment ancrés dans la pièce alors qu'à la base, c'est des témoignages ou des improvisations au plateau. Il y a une rencontre qui m'a marqué, je ne peux pas donner le nom de la personne, mais quelqu'un qui a vécu quasiment exactement le même parcours que celui de Paul-Éloi dans la pièce. C'était quelqu'un qui était commercial et qui a voulu créer une société, qui a contracté des dettes assez importantes et qui très vite s'est retrouvé fiché Banque de France, sans compte en banque et en précarité absolue. Ce qui a été très fort, c'est que dans la pièce, j'avais déjà écrit le rôle du père, parce que généralement, c'est la perte d'un proche ou la maladie d'un proche est un catalyseur pour un décrochage. Et en fait, ce qui a été très, très fort, c'est que pendant les ateliers, le jour où j'ai apporté la scène du père, cette personne-là avait perdu sa mère, qui avait Alzheimer, elle aussi, comme dans la pièce. Enfin, il y a eu des espèces de croisements qui étaient des signes qu'on était en train de parler de quelque chose de fort, je crois. Et il y a eu des moments comme ça très forts dans les ateliers.
Vous êtes allé aussi dans des clubs de sport?
Oui, bah ça clairement, mais on est plusieurs, que ce soit Maxime, Paul Éloi ou moi, on est plusieurs dans l'équipe à faire beaucoup de sport, et on commence à trouver de plus en plus insupportable l'injonction productiviste qu'on a jusque dans nos loisirs. Et on nous demande plus simplement de nous amuser, mais on nous demande de nous dépasser et de nous fixer des objectifs. Enfin, j'ai l'impression de retourner au travail après le travail.
Alors j'ai vu sur le site de la Boutique du Bleu que vous continuez à recueillir des témoignages.
Aujourd'hui, en fait, il y a une vraie question qui s'est posée dès le début avec les Petits Frères des Pauvres, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que monter un projet avec une association, le monter avec des gens en situation de précarité, ça veut dire créer du lien. Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la récolte de témoignages, mais on continue à échanger avec les Petits Frères, on continue à déjeuner tous ensemble, on continue à se voir, à organiser des réunions, parce qu'en fait, il y a un après, et qu'on ne peut pas juste utiliser les gens et les lâcher.
Et ils viennent aussi voir la pièce.
Certains sont venus entre 4 et 6 fois voir la pièce.
Et quels sont leurs retours?
On a des retours qui sont c'est très proche de ce qu'ils ont vécu pour certains. Pour d'autres, c'est plus loin de ce qu'ils ont vécu. Mais il y a des moments qui les marquent parce que ça a été des situations. Je pense que là où on a réussi et que c'est intéressant de faire une synthèse de ces parcours, c'est que ça permet de toucher absolument tout le monde, parce qu'on a tous déjà vécu des moments d'improductivité sans forcément se dire qu'on allait tout perdre. Mais eux, ils les ont vécus et ils ont tout perdu. Donc ça avait une résonance très forte chez eux. J'ai eu un moment assez fort avec justement la personne dont je parlais, qui vraiment le soir de la première était en larmes et m'a sauté dans les bras en me disant que c'était exactement le témoignage de ce qu'il avait vécu et que ça lui avait fait du bien de voir tout ça mis en scène, en plus dans une narration qui crée une distance, qui libère un peu la parole.
Est-ce que tu peux nous parler plus du travail de mise en scène ?
La mise en scène, d'abord on était dans des contraintes qu'ont beaucoup de jeunes compagnies, c'est-à-dire on ne voulait pas s'encombrer d'énormément de matériel parce qu'on ne le pouvait pas. Et on a cherché assez rapidement qu'est-ce qui symbolise la productivité, cette course en avant, et cette course en avant qui n'avance pas, puisque finalement, on a beau évoluer dans son statut social, on peut tout perdre du jour au lendemain. Et en allant au sport, c'est assez simple. J'ai eu cette idée du vélo d'appartement, parce que le vélo d'appartement, à la fois, il nous met dans l'effort, dans le dépassement de soi, et en même temps, il n'avance pas du tout. Donc en fait, on a placé cet élément au centre, et c'est devenu un élément de scénographie en soi. Ensuite, tout le travail de mise en scène, je me suis tout simplement très bien entouré. Moi, c'était ma première mise en scène, donc j'avais beaucoup joué, mais j'avais pas beaucoup dirigé. Donc je me suis entouré de Brice Borg à la mise en scène, je me suis entouré de Julie Mailleux, qui est une scénographe, à la scénographie pour donner un peu du contenu et toujours rester dans l'abstrait, c'est-à-dire ne pas projeter de réels décors ou quoi que ce soit. Et on a tout travaillé comme ça. Après, moi, sur le travail de mise en scène en lui-même, c'est-à-dire comment je dirige les comédiens, d'abord je suis dans une relation de confiance très forte avec eux, parce que pour la plupart j'ai joué avec eux dans la même compagnie, donc c'est assez familial. Et enfin, en fait, je travaille beaucoup de façon cinématographique, c'est-à-dire que mon vocabulaire au plateau est le même qu'un directeur de, je pense, qu'un réalisateur dans le cinéma, c'est-à-dire que je parle de travelling, je parle de zoom, je parle de dézoom, je parle de fondu, je parle de cut, et en fait, dans mes transitions, dans la façon dont j'amène les regards, je travaille ça. Je sais qu'un comédien qui ne regardait pas le public et qui d'un coup se met à regarder le public crée un zoom, et je sais qu'un comédien qui tourne autour d'un autre en le regardant crée un travelling. C'est des effets qu'on peut travailler au plateau, et moi j'aime beaucoup ce travail. Quand je dis par exemple à un comédien là je pense qu'il faut qu'on fasse un travelling tournant, ce qui est assez bizarre dit comme ça, en fait très concrètement il y a un des comédiens qui en regarde un autre pendant qu'il tourne autour de lui-même, et ça crée un effet comme si le spectateur lui-même tournait autour de la scène. Et ça, c'est tout à fait du vocabulaire cinématographique, et c'est ce que j'aime bien moi au plateau, c'est-à-dire qu'avec rien finalement, il n'y a rien au plateau, on travaille dans l'espace vide, vraiment comme ce que Peter Brook imaginait, on travaille dans l'espace vide, mais on le nourrit de ces regards-là, on laisse le spectateur complètement projeter ce qu'il veut autour de ça.
Et ça se voit dans la scénographie aussi.
Ça se voit dans la scénographie, il n'y a rien à part le vélo et du motion design en mur de fond, mais pareil, c'est du motion design abstrait, on ne concrétise rien, donc on laisse toute la place à l'imaginaire du spectateur. C'est l'acteur qui est vraiment au cœur de mon travail et sa capacité à créer de l'image.
Tu l'as dit, ta pièce parle de la productivité à tout prix, de ce besoin qu'on a dans notre société, aussi du déclassement social. Par rapport à ton propre parcours, comment est-ce que ces thèmes sont arrivés ?
Déjà, j'étais dans une école de commerce où on approche beaucoup les choses par le quantitatif. Et assez trop rarement, je trouve, enfin assez peu souvent, pardon, par le qualitatif. Et ça, c'est quelque chose qui me marque. Et après, moi, je nous trouve envahis dans le quotidien par des chiffres et par de la quantité, et très peu par de la qualité, par de la proximité, par de la franchise dans les rapports. Ensuite, voilà, je travaille en entreprise. Et il y a un casse-tête quand on travaille dans une start-up qui grandit, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder un esprit qui est familial tout en fixant un cadre qui est celui d'une boîte qui grandit. Et ça, ça a été assez marquant pour moi. Donc clairement, le fait de travailler en entreprise, le fait d'avoir fait HEC, ça m'a donné un regard particulier, je pense, sur ce travail qui était de dire oui, se fixer des objectifs, les atteindre et les dépasser, ça vient de là.
Et du coup, ça t'a permis d'avoir un regard critique ?
Ouais, je pense. Après, mon but, c'est pas de rentrer dans la moralisation. En fait, je pose beaucoup de questions. Moi-même, quand je travaille en entreprise, je suis manager, je suis bien obligé de mettre des objectifs aux personnes qui m'entourent. En même temps, je connais la vie de chaque personne qui m'entoure, et je sais tous les détails. Je sais quelle implication telle ou telle tâche va avoir aussi. Je sais que s'il est absent, c'est pour telle ou telle raison. Enfin, j'essaie d'avoir une approche très, très humaine de mon management. C'est très difficile, je trouve, de trouver un équilibre entre une approche humaine et en même temps une exigence de rentabilité, de productivité. C'est un équilibre qui est très délicat. Donc plutôt que de dire oui, bien sûr, je critique beaucoup de choses, j'en critique énormément, mais je n'ai pas forcément les réponses. Et c'est clairement pas un spectacle, la réponse. Enfin, j'espère pas.
J'ai entendu que tu avais invité tes collègues et ton patron à la représentation de l'inversion de la courbe.
Ils se sont invités tout seuls, d'ailleurs.
Ils l'ont pris comment ?
Plutôt bien, parce que, encore une fois, c'est pas un spectacle à charge. Après, pour certains, de façon un peu plus délicate, parce qu'il y a des scènes, qui sont dans le spectacle, qui ont vraiment été vécues quasiment mot pour mot dans l'entreprise. Donc ça, par contre, ça a été un peu plus dur à avaler. Mais il y a des... Il y a des réflexions en général qui sont partagées. Moi, en fait, pour revenir un tout petit peu à l'entreprise et à ce que ça m'apporte, j'ai quand même un vrai doute sur la logique d'objectif à atteindre et à dépasser qui est devenue permanente. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, le fait de se fixer des objectifs, ça traduit un certain manque de confiance en soi, c'est-à-dire mon projet n'est pas assez fort pour que les gens soient suffisamment attachés à celui-ci pour se dépasser sans avoir besoin de fixer des objectifs. Et puis aussi, je pense que c'est un manque de confiance parfois envers les autres, parce que malheureusement ça rentre très rapidement dans des logiques de flicage, et plutôt que de vérifier si les gens atteignent leurs objectifs, je pense que de leur donner de l'autonomie et de leur donner aussi ce qu'ils attendent en termes d'amour propre et d'attention, c'est parfois beaucoup plus efficace que ces machineries qu'on met en place pour tout quantifier, en fait.
Donc d'après ce que tu dis, il y a quand même un très propos politique derrière ton œuvre.
C'est assurément politique. Alors, c'est un travail qui est assurément politique, parce qu'il pose plein de questions. Par contre, je refuserai toujours qu'on dise que c'est un travail engagé, parce que je donne pas les réponses et j'ai pas les réponses.
Tu donnes pas les réponses, mais de ce que tu dis, t'as envie quand même d'essayer de faire évoluer
la branche
dans laquelle t'évolues aussi.
Je pense qu'on atteint un petit peu la fin d'un modèle, un modèle de société qu'on nous prône encore au lycée aujourd'hui, qui est... les révolutions industrielles et les 30 glorieuses, et on sent bien que la simple norme du plus n'est plus suffisante pour construire une société, et qu'il y a peut-être d'autres manières de penser les choses. Mais encore une fois, même autour de moi, parmi mes camarades de promotion à HEC, je vois des gens qui montent des projets extraordinaires, des gens qui montent des projets où ils font travailler des consultants de cabinets de conseil dans des associations à but non lucratif pour les aider à développer des projets. Je veux dire, il y a des croisements qui sont possibles et qui sont en cours, mais c'est vrai que j'interroge beaucoup le modèle qui est encore, on le sent, dans une phase de transition.
Est-ce qu'il y a une petite volonté d'éveiller des consciences ?
Clairement, c'était le but de ce travail, et c'est aussi pour ça que j'ai finalement pas fait l'adaptation d'un Romain Gary, c'est que j'avais envie de poser des questions, et j'avais envie que le spectateur sorte... comme dit Michel, l'un des comédiens, encombré. Et j'aime bien ce terme, c'est-à-dire de faire le poil à gratter, et que les gens sortent de la salle en s'interrogeant. La personne que j'ai vue à la rue, est-ce que ça pourrait pas être moi ? La personne que j'ai vue à la rue, est-ce qu'elle avait pas mon parcours avant ? Et de plus, simplement voir la personne à la rue, mais une histoire. Et je pense que c'était ça le message. Je crois que là-dessus, les gens sont touchés et s'interrogent.
T'as eu des retours ?
Ouais, j'ai eu des retours... ça va de j'ai dû faire une psychanalyse après ton spectacle jusqu'à euh, jusqu'à des gens qui sortent plus révoltés. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas l'unanimité, donc on doit appuyer à un endroit qui fait mal. Donc c'est, pour moi, c'est plutôt bon signe, en fait.
D'accord. Donc tu as eu des retours négatifs aussi.
J'ai eu des retours négatifs aussi, bien sûr, et j'espère continuer à en avoir, parce que ça veut dire que si on faisait un spectacle qui plaît à tout le monde, je pense qu'on pourrait pas se prétendre politique. C'est pas possible.
Qu'est-ce qu'ils disaient, les retours négatifs ?
Les retours négatifs, c'est soit des choses sur la longueur, soit des choses sur des personnages qui sont trop durs, trop froids, ou sur un monde qui est trop froid. En même temps, voilà, l'emphase, c'est un style, et ça permet parfois de montrer des situations. Je veux dire, c'est le principe même parfois de la caricature. C'est aussi pour ça, par exemple, que Charlie Hebdo est si décrié. C'est parce qu'ils grossissent des traits à leur extrême pour montrer quelque chose de latent dans la situation initiale. Ça, c'est quelque chose qui est assez beau à faire.
Est-ce que tu peux m'expliquer le titre, l'inversion de la courbe? De quelle courbe est-ce qu'on parle?
L'inversion de la courbe, en fait, c'est à la fois tout ce que ça évoque derrière. L'inversion de la courbe, c'est évidemment le propos tenu pendant le dernier quinquennat. C'est la courbe du chômage. Mais en fait, il y a un vrai problème à dire l'inversion de la courbe au sens mathématique, puisque inverser une courbe qui croît doucement, ça revient à créer une courbe exponentielle, donc une courbe qui croît très vite. Donc l'inversion de la courbe du chômage ferait atteindre très rapidement le plein chômage, c'est-à-dire un chômage de masse encore plus fort. Donc déjà, je trouvais ça assez comique, et je trouve que ça traduit très bien les choses, en fait, une espèce d'impuissance, en tout cas pour l'instant politique, à résoudre le problème. Et aussi, c'est la courbe de nos vies, c'est-à-dire on nous promet à tous une croissance, de gagner plus, de vivre mieux, c'est-à-dire de consommer plus. Et il y a cette courbe-là qui est permanente. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vois des gens de ma promotion commencer à refuser des promotions parce que ça ne correspond plus à leurs attentes. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'il y a un phénomène à l'œuvre et une espèce de choc des cultures entre l'ancienne et la nouvelle génération, où parfois, je vois pas forcément l'intérêt de faire ça, j'aimerais gérer des plus beaux projets plutôt que des plus gros projets. Et c'est quelque chose d'assez neuf, je trouve.
On a lancé cette chaîne de podcast avec le Théâtre de Belleville aussi pour parler aux très jeunes compagnies, comme le théâtre qui soutient aussi ces jeunes compagnies en les accueillant. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des très jeunes compagnies qui se lancent dans le théâtre, dans leur première mise en scène?
D'y aller à fond, d'être très généreux et surtout d'être dans la transparence totale vis-à-vis des gens avec qui on travaille, parce que ça, je pense que c'est la condition pour y arriver. Ça fait aussi partie des leçons que j'ai retenues des spectacles précédents sur lesquels j'ai travaillé. Je pense qu'il faut dès le début se dire les choses, les conditions dans lesquelles on va travailler, quel niveau de sacrifice il va falloir atteindre pour y parvenir. Et au moins après, on n'aura que des bonnes surprises. Alors que l'approche souvent de jeunes metteurs en scène qui consiste à promettre des choses mirobolantes à leurs équipes, à les décevoir, ça crée énormément de frustration et des cicatrices qui restent ouvertes après. C'est plus simple de travailler dans la clarté, je trouve.
Merci. Tu peux juste nous rappeler quand est-ce que joue l'inversion de la courbe?
L'inversion de la courbe se joue tous les dimanches et lundis jusqu'au 26 février. Il y aura une représentation spéciale le 20 février. Avec toute l'équipe du spectacle.
Super, merci beaucoup.
Merci.